On est des machines. Yahoo!
Le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté hier sa mise à jour économique. On prévoit toujours un déficit de 11 milliards de dollars pour l'année en cours. On va lui en parler ce matin. Il est au bout du fil. Monsieur Girard, bon matin.
Bonjour.
Merci pour votre temps. Toujours très apprécié, Monsieur Girard.
Ça me fait plaisir.
Monsieur Girard, peut-être commencer avec les éléments qui ont motivé vos décisions hier dans votre présentation de la mise à jour économique.
Bien, nous, c'est toujours l'objectif d'améliorer les services à la population, principalement en santé et en éducation. On fait des investissements importants dans ces réseaux-là. Et en même temps, on garde l'œil sur le retour à l'équilibre budgétaire de façon progressive, prudente. Et puis c'est pour ça qu'on fait une révision des dépenses fiscales et qu'au dernier budget, on avait fait des choix au niveau des crédits d'impôt aux entreprises. Et là, on a identifié une mesure au crédit d'impôt des particuliers qui n'a plus sa raison d'être. Ouais.
Monsieur Girard, est-ce que ça vous frustre de ne pas être en mesure de réduire le déficit pour cette année?
C'est-à-dire que moi, je suis un professionnel, je suis formé en économie, oui. Je suis l'ancien trésorier d'une grande banque. Je suis habitué de gérer dans la turbulence. Et c'est certain que dans un monde idéal, j'aimerais réduire le déficit rapidement. Mais comme on doit en même temps améliorer la qualité des services en santé et en éducation, puis on fait des investissements importants en infrastructure, dans la qualité de nos données, dans la gouvernance, dans nos ressources humaines qui sont nécessaires pour améliorer les services aux citoyens, bien, il faut y aller de façon progressive, responsable. C'est ça qu'on fait. On fait des choix. Puis pour cette année, on demande au réseau de la santé et de l'éducation de respecter leur budget, puis c'est un changement de régime, parce que durant la pandémie, c'était dépenses illimitées en santé, et là, on demande aux gens du réseau de respecter leur budget de façon stricte pour cette année. C'est un changement de régime, puis je les remercie de leur professionnalisme, de faire les efforts pour faire les bons choix avec nous.
Justement, je vous entends parler de ça, les respect des budgets au niveau éducation, santé, mais il y a quand même eu beaucoup de sorties publiques, notamment les cégeps, de dire « Hey, on a besoin de bien plus d'argent pour remettre à jour nos infrastructures dans le coin de Montréal et Laval aussi au niveau de la santé. » Je pense notamment dans le coin de Laval, là, où un institut en santé mentale doit mettre là, sur la glace là, un projet de développement. Donc, je comprends que vous les remerciez de leur effort, mais en même temps, ça crée de la grogne chez eux.
Oui, mais regardons l'ensemble là, de notre travail ou de la situation. Il n'y a jamais eu autant d'investissements en infrastructure au Québec que cette année. Ce sont des budgets records en santé. Si vous regardez les budgets d'infrastructure en santé cette année versus il y a 6 ans, notre arrivée au pouvoir, c'est une augmentation de 150%. Les cégeps, c'est des investissements records qui sont faits. Puis je comprends que c'est difficile, mais on ne peut pas répondre à un nombre illimité de demandes. Il faut respecter la capacité de payer des Québécois. Les dépenses sont en hausse de façon significative cette année, plus de 6% la croissance des dépenses cette année. Donc, on fait les investissements, on demande aux dirigeants du réseau de respecter leur budget, puis on le sait que c'est pas facile, mais c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que les citoyens s'attendent aussi. Ils veulent une amélioration des services, mais aussi une gestion des finances publiques de façon responsable.
Et justement, vous parlez de l'augmentation des dépenses. Plusieurs citoyens ont été surpris de voir une augmentation si drastique là, qui est au-dessus de 2 milliards de dollars. Comment on explique ça dans un contexte où on est déjà avec 11 milliards en déficit? Est-ce qu'il y aurait eu lieu de couper davantage?
Bien là, c'est intéressant parce que les deux postes qui augmentent, il y en a un, c'est 900 millions en santé. Donc, tout à l'heure, vous me parliez de coupure en santé. Or, le niveau des dépenses en santé pour l'année 24-25 a été relevé de 900 millions de dollars. Puis l'autre poste de dépenses, c'est les infrastructures, 800 millions de dollars. Alors, encore une fois, le niveau du plan québécois d'infrastructure pour cette année, il est à un niveau record qui est près de 19 milliards de dollars de dépenses en infrastructure. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut gérer de façon responsable, faire des choix, et on demande au réseau de l'éducation, de la santé, de l'enseignement supérieur, de respecter leur budget.
L'utilisation du fonds de provision pour éventuel temps, en effet, d'utiliser 750 millions de dollars sur les 1,5 milliards du fonds, ça, comment on le voit? Pourquoi on s'est permis d'aller piger là-dedans?
Bon, là, je pense que les gens qui véhiculent ce message-là, en tout respect, c'est de l'amateurisme, là. Parce que on a une provision dans les états financiers pour les imprévus qui correspond à 1% des dépenses, 1,5 milliard. Donc, si on enlève cette provision-là, le déficit aurait été de 9 milliards et demi. Avec la provision, ça fait 11 milliards. Et puis là, on a des dépenses imprévues. Nous sommes à la mi-année, alors nous utilisons la moitié de la provision qui avait été prévue pour des imprévus, tels que des dépassements de dépenses en santé et des coûts reliés aux inondations. Donc, c'est une bonne pratique comptable d'avoir une provision de 1% des dépenses au niveau du budget du gouvernement du Québec et à la mi-année, l'utilisation de la moitié de la provision. C'est une pratique normale. Alors, s'il y en a qui veulent critiquer notre travail, je pense qu'ils devraient aller chercher d'autres points que celui-ci.
Monsieur Girard, on souhaite tout le monde l'équilibre budgétaire. Qu'est-ce qu'on doit faire là, pour y arriver d'ici 2029?
Arrimer la croissance des revenus et des dépenses. Et ça, c'est une règle d'or, tant dans les budgets familiaux, les dépenses personnelles, les entreprises. Si vous partez d'une situation difficile ou déficitaire et que vous voulez qu'elle s'améliore, la croissance des revenus doit dépasser la croissance des dépenses. Et donc, pour les prochaines années, ce qu'on va voir, c'est une croissance des revenus d'approximativement 4 % par année et une croissance des dépenses de 3 % par année. Et doucement, progressivement, raisonnablement, on va atteindre l'équilibre budgétaire.
Monsieur Girard, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il y a dans cet énoncé économique de particulier pour la région de Québec? Est-ce que dans la région de Québec, on fait des gains? Puis, en particulier, je ne voyais pas nécessairement de mesures pour l'itinérance alors qu'on est dans une crise là, jamais vue au Québec. Est-ce que ça va plus venir au prochain budget, les sommes en itinérance?
Bon, en itinérance, rapidement, puis ensuite Québec. En itinérance, nous attendons de signer une entente avec le gouvernement fédéral pour ajouter 50 millions pour 2 ans avant l'hiver. Le ministre Carman et le ministre Fraser sont en discussion. C'est très important que le gouvernement fédéral comprenne que c'est le ministre Carman qui identifie les priorités en itinérance. On est capable de s'entendre dans les prochaines 48 heures, j'en suis convaincu.
Ah, bonne nouvelle, ça.
Bon, ça, j'en suis convaincu. Pour la région de Québec, il y a les fonds pour les sociétés de transport en commun pour permettre la transition, parce qu'on sait que l'ensemble des sociétés de transport en commun du Québec sont en déficit. On fournit une prévisibilité avec un accompagnement pour revenir à l'équilibre. Alors ça, c'est des fonds pour le transport en commun. Et finalement, il y a le fonds de la capitale nationale qui supporte des projets économiques qui, lui, est de 100 millions sur 5 ans, qui va permettre à la région de la capitale nationale de supporter des projets économiques.
En terminant, je suis curieux de vous entendre, M. Girard, sur les mesures annoncées au fédéral hier par Justin Trudeau, c'est-à-dire un congé de 2 mois là, sur plusieurs éléments par rapport à la TPS et le chèque de 250 $ au printemps. Est-ce que, bon, selon vous, ce sont des bonnes mesures et est-ce qu'on pourrait voir le Québec y aller de mesures comme ça dans les prochaines semaines, les prochains mois?
D'abord, moi, j'ai appris ça hier. Ça me semblait précipité un peu. On attend le dépôt du bulletin fiscal pour comprendre exactement où ils s'en vont. Je pense que c'est à eux d'expliquer leur choix. En général, les économistes, des mesures temporaires, un congé de taxes pour 2 mois, ça amène des complications opérationnelles qui vont être difficiles, puis ça va aussi déplacer la consommation dans le sens que il y a des gens qui vont consommer plus pendant 2 mois, mais qui risquent de consommer moins après. Bref, c'est pas les mesures que moi j'aurais choisies. Mais le gouvernement du Canada a été élu, puis ils font leur choix, puis je laisse les gens juger, mais c'est vraiment pas à moi de défendre leurs mesures, puis j'en serais pas capable.
Fait que c'est quoi la différence avec le 500 $ de la CAQ qui avait été donné en mars 2022?
Ah, mais ça, c'est une très bonne question. C'est que nous, lorsqu'on a donné 500 $, l'inflation était à 8%, puis l'indexation du régime fiscal était à 2%. Tandis que là, l'inflation est revenue à sa cible de 2%. En fait, l'inflation est inférieure à 2% au Québec. Alors, la nécessité de ces mesures-là aujourd'hui, on a annoncé hier l'indexation du régime fiscal de 2,85%. Et l'inflation va être inférieure à 2 ou autour de 2%. Alors, généralement, des compensations pour le pouvoir d'achat, ce serait nécessaire au moment où l'inflation est à son sommet.
Donc, pour vous, les libéraux ont usé tout simplement d'électoralisme en y allant de cette mesure-là, puis c'est pas nécessairement des bonnes mesures fiscales pour le citoyen. Alors, demandez-vous comment...
Non, mais ça, c'est vous qui dites ça, là. Moi, ce n'est pas mon rôle de juger le travail de la ministre des Finances du Canada. C'est au Parti libéral du Canada d'expliquer leur choix. Puis vous pouvez dire ce que vous en pensez, mais moi, j'ai appris ça hier. J'attends la publication du bulletin fiscal. Je vous confirme que c'est les choix, ce ne sont pas les choix que moi j'aurais fait.
Éric Girard, ministre des Finances, merci infiniment pour votre temps. Toujours un plaisir.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Éric Girard, ministre des Finances du Québec.
Exactement. Donc, les libéraux qui ont copié la mesure de la CAQ, mais dans une situation inflationniste moins importante que lorsque la CAQ l'avait fait. C'est de la façon que le ministre Girard se défend là, par rapport à ça.
Courte pause. Ensuite, avec nous en studio, le maître métal Didier Sanson. On connaît la job de l'avocat de la défense avant et pendant le procès, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi la relation avec son client? On en parle dans les prochaines minutes.
On s'arrête.